Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot. 23 degrés à Paris, la température fraîchit un peu en ce début septembre. Alors on a refermé la fenêtre des transferts bien sûr. Le mercato, c'est fini pour cet été et ça se termine sur un joli coup pour le Paris Saint-Germain. On l'avait pas forcément vu venir derrière le gigantesque écran de fumée produit par le feuilleton Neymar, mais Mauro Icardi a bel et bien signé au PSG et bientôt il jouera avec Neymar. Sacré joueur, sacré caractère, le caractère de sa femme est assez marqué aussi. Elle et son agent et l'Inter de Milan a pu constater qu'elle avait une forte personnalité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Dominique Sévrac du Parisien.
Bonjour
Dominique.
Bonjour Christophe.
Hervé Penaud de l'équipe. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous. Vous avez un sacré caractère. Vous, je vous connais. Hein.
Gilles Verdez, bonjour Gilles.
Bonjour.
Et Olivier Pron, de retour également de vacances. Bonjour Olivier.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
En Angleterre, le recrutement n'est plus possible depuis bientôt un mois. Calendrier différent de celui du reste de l'Europe, ce qui ne fait pas que des heureux. Une bonne partie des clubs de Première Ligue aimeraient bien d'ailleurs revenir en arrière. Et puis... L'Espagne, oui, ça vous fait rire.
Oui, ah, ils ont changé il y a peu et maintenant ils veulent revenir en arrière.
Aussitôt, et ça discute. En tout cas, ça va discuter la semaine prochaine et nous aussi, on va en discuter. Et puis, l'Espagne aussi a recruté, elle a même dépensé comme jamais. Nous reviendrons sur ce début de Liga avec un Real Madrid et un FC Barcelone qui sont moyens pour le moment. C'est l'Atlético et sa perle portugaise, João Félix, qui occupe la tête du classement. Radio Foot, préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Soy muy... muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain.
Ma che cosa ha fatto Icardi?
E arriva il gol del vantaggio di Mauro Icardi.
E alla fine torna a segnare anche Mauro Icardi.
Hola a todos los hinchas del Paris Saint-Germain. Estoy muy contento de llegar a París.
Leonardo, mercato fini o pas?
C'est fini.
La cloche, la fermeture du marché et le PSG a donc signé avec Navas, ça c'était attendu, mais aussi avec Icardi et ça, ça l'était moins. Alors tout de suite, focus sur cet Argentin, 26 ans, né en Argentine à Rosario, formé au FC Barcelone, il sort de 7 saisons en Italie avec un total de 124 buts marqués. Il a été plusieurs fois à plus de 20 buts en une seule saison. C'est donc un super attaquant de pointe qui se profile. Est-ce que vous pouvez, messieurs, nous le situer dans la hiérarchie mondiale? Où est-ce que vous le placez, Dominique?
Derrière des gens Dominique. Comme Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Kun Agüero. Voilà, derrière le premier wagon des attaquants mondiaux, dans lequel je ne mets pas Cavani, par exemple. Et puis lui, il serait donc dans la deuxième catégorie, parce que, par exemple, en Ligue des Champions, il en est à 6 matchs, je crois.
Oui.
C'est pas énorme, il n'a pas beaucoup d'expérience.
Dans la même catégorie que Cavani, vous le mettez.
Voilà, c'est ça. Et il n'a pas beaucoup de sélections, 8, je crois, avec l'Argentine.
C'est ça, ouais.
Donc bon, son expérience internationale reste limitée. Alors, il a 26 ans, il y a des carrières internationales qui commencent parfois à 25, 26 ans. Maintenant, ça commence plus tôt, mais lui, il a raté visiblement le bon wagon. Donc voilà, c'est pas le joueur que les clubs veulent avoir tout de suite, comme voilà ceux qu'on a cités.
Un Lewandowski aussi, par exemple.
Oui, Lewandowski, il est devant pour moi.
D'accord. Hervé?
Ouais, c'est l'impression que ça peut donner. Maintenant, est-ce qu'il va se révéler au Paris Saint-Germain? 26 ans, c'est pas vieux, hein, pour un joueur. Il va être dans un contexte un petit peu différent, sortir un peu de son côté intériste, hein, là, et qu'il avait marqué ces dernières années. C'est vrai qu'en Argentine, il a peu de sélection, mais enfin, la sélection argentine, c'est quand même une drôle de sélection aussi, hein. On a vu les choix qui ont parfois été faits, ça a pu étonner. Donc, je me fierai pas que là-dessus pour juger de sa qualité. Ce qui est certain, c'est que c'est un pur buteur. Donc c'est ça veut dire que c'est une vraie alternative à Cavani.
C'est un gars qui est dans la surface pour pousser le ballon au fond.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est très bon de la tête. C'est un joueur qui peut être très spectaculaire par les gestes qu'il a. Alors c'est vrai qu'il n'aura pas le même impact physique qu'un joueur comme Cavani. Un Cavani qui est capable de défendre, de faire des efforts que lui ne fera certainement pas, même si Spalletti avait tenté de lui faire et ça n'a pas toujours été très concluant. Mais il n'empêche que pour le Paris Saint-Germain, à 4 jours d'une deadline, quand vous avez une opportunité qui s'ouvre comme ça, à un moment, si vous la saisissez, bravo.
Plus tard que Cavani. On sent que c'est un personnage beaucoup plus romanesque que Cavani. Donc je pense qu'il va être adulé par les supporters. Voilà, c'est un profil différent de ce qu'ils avaient déjà.
Cavani, il est déjà.
On va parler de sa personnalité, mais sur le profil, Gilles, c'est un super coup réussi par le PSG pour vous.
Alors je suis quand même moins optimiste. Je le vois plus comme un 3 ou 4e rideau européen. Il est derrière Harry Kane, il est derrière les joueurs de Liverpool. On en a quand même oublié dans la liste. Il fait pas partie du top 8. Il est peut-être dans le top 15. Je dirais que c'est dans la vingtaine de très bons attaquants qui jouent en Europe. Leonardo a activé ses réseaux italiens. Il a bien fait. Ça me fait penser, moi, à l'avenue de Marco Simone au PSG.
Ah oui.
Exactement. Il venait de l'AC Milan, l'autre club de Milan. C'était un coup comme ça, surprise, qui avait bien fonctionné, qui s'était mal terminé. Voilà, ça peut marcher. C'est quand même pas un joueur de classe mondiale pour moi.
Ah bon ?
Non.
Ouais,
c'est surpris.
Pour moi,
dans les 20 attaquants, quand on est dans le 20e attaquant mondial, on est un joueur de classe mondiale.
Oui, parce
quand
que
on marque, moi, juste Christophe faisait référence à ses stats. Quand vous marquez, voilà, c'est ça, entre 15 et 30 buts en championnat pendant 6 saisons d'affilée, enfin 5, au moins 5, entre depuis 2014 jusque la saison dernière, c'est quand même quelque chose. Et c'est pas un petit championnat. Voilà, c'est le championnat italien.
Il y a un taux de conversion qui est supérieur à Cavani.
Le minimum c'est 15, le max c'est 29. C'est quand même énorme. C'est la régularité est là et ça vous fait un joueur de classe quand même mondial.
Oui, et puis non, le problème, c'est de savoir comment il va être utilisé. Parce que là, on a parlé de joueurs, je suis assez d'accord quand même avec Gilles. C'est vrai qu'il y a 8, 15, il y a peut-être 15 attaquants aussi bons que lui, si ce n'est meilleur. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, parfois, simplement le système de jeu, le style de jeu peut vous mettre plus en valeur que d'autres attaquants qui, individuellement, intrinsèquement, sont meilleurs. Donc après, ça dépend comment ça va fonctionner avec Mbappé, avec Neymar, puisqu'il est encore là. Et avec, voire Di Maria, et voire Cavani. Je ne sais pas si un jour, il n'aura pas l'idée, sur certains matchs,
d'associer deux.
Ça sera plus compliqué maintenant pour
Choupo-Moting. C'est quand même
beaucoup plus compliqué.
C'est quand même pour Choupo-Moting que la nouvelle est très mauvaise.
C'est-à-dire que Tourelle, à Metz, vendredi soir, alors que Choupo-Moting venait encore de marquer, on lui dit, finalement, il est en train de progresser, votre attaquant. Il dit, non, lui, c'est un garçon pour jouer 20 minutes.
D'accord.
Donc
même
quand il marque, ça ne suffit pas.
Ouais, mais enfin, il sait très bien que le Paris Saint-Germain ne sera pas jugé contre Metz, mais sera jugé dans des matchs un peu plus difficiles. Et effectivement, Choupo-Moting, que j'ai défendu déjà ici plus d'une fois, et je pense que c'est un bon joueur de football, mais simplement, il n'est pas du calibre évidemment des joueurs qui existent aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
Gilles.
Après, pour moi, c'est déjà une grosse menace pour l'entraîneur actuel. Je vous le cache pas. Leonardo a activé ses réseaux, je le disais. Ça s'est fait de compagne ou d'épouse de Leonardo à épouse de.
Du joueur,
de l'attaquant.
Elles sont amies.
Ça fait un maillon de plus de la chaîne de Leonardo dans le carré vert de la pelouse. Donc pour moi, son arrivée, ça menace directement Tourelle. Et je pense que Leonardo, en recrutant son joueur, se prépare dans quelques mois
à prendre l'équipe.
Ou à prendre l'équipe. À devenir entraîneur.
Ah, carrément.
Ah, pour moi, c'est la main mise sportive de Leonardo dans l'effectif.
Il chercherait plutôt à faire venir.
Il y aura Allegri avant.
Alors voilà, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une menace directe pour l'entraîneur. Et à mon avis, Leonardo, qui est un fin politique, éminemment, intelligent, il a donné à Tourelle, voilà un de plus. On va voir comment tu vas gérer ça. On va voir comment tu vas récupérer Neymar. À toi de jouer maintenant. Bon courage.
C'est vrai que Hervé a effleuré la question, c'est-à-dire déjà comment gérer ce secteur offensif qui est maintenant riche. En tout cas, on n'a jamais trop de bons joueurs, mais il va falloir arbitrer. Alors le premier menacé quand même sur le terrain, c'est Cavani. Comment on va faire, Dominique? On fait venir Icardi en prêt.
Oui. Bon. 5 millions d'euros quand même, avec une.
Pas payant.
Une option d'achat à 65 pour qu'on arrive à 70 à l'arrivée. Comment on va faire? Alors l'année dernière, on a beaucoup parlé des absences de Neymar, 110 jours de manqué. Cavani, 106. Donc on n'est pas loin quand même. Son corps, il a 32 ans. Son corps est en train un petit peu parfois de le lâcher, comme en ce moment où il est. il est mal à la hanche. Donc comment on va faire? Eh ben on va faire des choix. C'est pas grave. Vous savez, à la Juventus, Mandzukic est sur le banc, Dybala est sur le banc, et j'entends pas que ça crée un problème. C'est Higuain en ce moment qui joue avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ça fait partie. Peut-être que Dembélé jouera pas beaucoup à Barcelone cette saison. Il sera sur le banc. Là, tous les grands clubs ont des joueurs sur le banc. Cet entraîneur a trouvé la meilleure formule. Moi, je pense que Neymar, il est contraint et resté de forcer, mais il ne veut pas jouer avec Cavani. Donc je pense qu'on va lui donner au moins ça. Cavani va peu à peu sortir de l'équipe.
Il va revivre peut-être la période Ibra, Cavani, où il y avait...
Ça a été sa meilleure période, parce que tout le monde se moquait de son positionnement côté gauche, mais c'est là où il a été le meilleur. À la fois, il pouvait marquer des buts, avoir un peu la frustration de ne pas jouer devant, comme ça lui permettait un peu d'être ronchon à certains moments, mais d'un autre côté, sur un côté, il avait la capacité à faire les efforts défensifs. Et donc finalement, c'était quasiment l'association qui fonctionnait le mieux. Et sur la fin, Blanc l'avait mis un peu avec Ibra devant. Mais c'est vrai qu'il y aura des problèmes pour Tourelle. Mais là, je vais peut-être... je souris un petit peu avec ce que dit Gilles. Il a pas complètement tort. C'est-à-dire que là, il est complètement en première ligne. D'un seul coup, le père Tourelle. Mais d'un autre côté, vous lui avez donné un matériel hors norme. Oui. C'est-à-dire que c'est là. C'est-à-dire que là, pour se planter, je parle même pas du championnat de France.
Là, il a pas l'excuse.
Là, il y a quasiment aucune excuse. Ouais. Parce qu'on parle de l'attaque où il va falloir faire des choix. Il va s'engueuler avec certains joueurs. Certains seront pas contents. Mais ça fait partie de la vie. Mais c'est la vie des grands entraîneurs. Ils sont pas là pour être aimés par tout le monde. Et ben, ça fait partie de son job. C'est-à-dire, même si quelqu'un vous déteste, le tout, c'est de gagner des matchs avec les joueurs que vous avez.
Et la saison, Hervé, de Tourelle, c'est ce qu'on retient, c'est qu'il sait pas vraiment gérer les stars. Donc c'est dangereux ce qui lui arrive.
Ah, ça c'est une bonne remarque, parce que c'est un des reproches qui a pu lui être fait après un début de saison un peu idyllique. Gilles.
Et surtout, par rapport, vous utilisiez le mot idyllique, par rapport à ce monde idyllique que décrivent mes collègues, de stars qui accepteraient de s'asseoir sur le banc sans rien dire, on est en France. Et ça ne se passe pas.
Ah non, on a dit tout le contraire.
Ça ne se passe pas comme ça ici. Ici, Neymar à Paris, il n'est pas comme à Barcelone. Les joueurs qui sont pas contents, ils s'expriment dans la presse. Ça ne fonctionne pas, ce système de stars qui resterait mutique parce qu'elles auraient un gros salaire. Non, au bout de 5 matchs où il va pas jouer, Cavani va commencer à dire « j'avais demandé de partir, on m'en a empêché » ou etc. etc. « Je veux aller je sais pas où ». Neymar va dire « ah bah si on m'avait transféré, etc. » Les
Gilles.
Autres.
Non, Neymar, il va rien dire.
Gilles. Ah, on va
Gilles.
Voir.
Le donc, s'il dit ça, là, je crois qu'il n'y a plus
donc,
les pieds.
Donc, saison extrêmement agitée. Je peux déjà vous l'annoncer.
Gilles, oui. Le Bayern Munich joue en Ligue 1 ou pas?
Alors, c'est le FC ou Ligue 1? J'ai pas dit le Bayern. C'est juste le seul club. Vous avez raison. C'est le club où ça se passe comme ça. Mais vous citiez, la Juventus. Mm-hmm. Vous citiez, les clubs espagnols. C'est pas pareil.
Eh ben, gardons notre tropisme français. Si on est comme ça, on est comme ça.
Mais c'est vrai qu'on va avoir un public, qui, si l'on suit ce que dit Dominique, et on peut le penser, s'il voit Cavani pousser sur la touche, il adule Cavani, le public.
Ah oui, plus
qu'il
est en fin de contrat.
Il va pas être content.
C'est ça, il est en fin de contrat. Donc,
ouais,
faut se préparer aussi
ça change rien pour le public. Oui. Et à l'inverse, le public va voir revenir Neymar, qu'il conspuait, il y a quelques semaines. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie gestion et tout ça, encore une fois, c'est Tourelle qui va devoir se débrouiller avec.
Bon, on va reparler
de... Vaut mieux être entraîneur du PSG que Dijon.
On va reparler du cas Neymar parce que cette affaire est aussi terminée. Mais d'abord, poursuivons un peu sur Mauro Icardi, le nouvel attaquant de pointe, donc, du Paris Saint-Germain. On l'a évoqué tout à l'heure, seulement 8 sélections en équipe nationale d'Argentine, pas de régularité, et il a pâti en fait d'une image de traître, et c'est très important pour comprendre le parcours de cet homme-là, ce qui est arrivé dans sa vie privée. Il a fréquenté à une certaine période, comme dirait Rémine Godot, le couple que formaient Maxi Lopez et Wanda Nara, et il a fini par se marier avec Wanda Nara.
Avec Maxi Lopez.
Pas avec Maxi Lopez, non.
Il s'est fait la femme de son pote.
Voilà. Ouais, c'est ça, dit comme ça. Ouais.
Et donc, il traîne un peu.
Pas, nous, hein.
Il traîne un peu cette image de traître en équipe nationale et ça a un peu condamné sa carrière internationale.
Alors effectivement, ça fait beaucoup. Hein. Il y a des problèmes en Argentine. Vous citiez ses problèmes de vie privée. Il y a des problèmes avec Messi. Ils s'entendent pas. À l'Inter, ça s'est mal terminé. C'est un joueur qui a un ego surdéveloppé, qui a même très mauvais caractère, qui a une très haute opinion de lui-même. Ça va être très compliqué.
On lui a retiré son brassard de capitaine à l'Inter en février
exactement.
Dernier.
Exactement. Il n'a pas hésité à s'en prendre à des supporters historiques de l'Inter, qui sont pas toujours irréprochables, mais ça a été très loin. Donc c'est quelqu'un qui est très difficile à gérer.
Il peut être dans la provocation.
Extrême. Avec le public français, à mon avis, ça risque d'être compliqué. J'entends ses qualités. il y a aussi une face plus sombre de cet homme, pas forcément de ce joueur. Et pour moi, ce recrutement ne coule pas de source. Ça va être compliqué.
Effectivement, il sort d'un conflit, Dominique, avec l'Inter de Milan. Un conflit qui a duré des mois, retrait du brassard, ensuite écarté du groupe professionnel. Ça s'est prolongé jusqu'à ses tout derniers jours, d'ailleurs. Alors sa femme, on va y venir, Wanda Nara, parce qu'elle est aussi son agent, son agente, avait affirmé haut et fort à plusieurs reprises, y compris en pleurant à la télévision italienne, où elle est consultante d'une émission de foot, avait affirmé qu'il ne quitterait pas l'Inter de Milan. L'Inter voulait s'en débarrasser parce que ça devenait un poids sur la vie de ce club. Et à tel point d'ailleurs que le joueur a attaqué aussi quasiment en justice, il a annoncé ça en fin de semaine dernière, l'Inter de Milan. Et qu'on était un peu surpris que finalement ça débouche sur un transfert au PSG.
Il a une personnalité clivante. Alors là on dit beaucoup qu'il y a des problèmes, mais c'est aussi un garçon à qui on avait confié le brassard à 22 ans. Mm-hmm. Donc à 22 ans, quand vous êtes capitaine de l'Inter, c'est une grosse responsabilité. Ça veut dire qu'on a confiance en vous. Ça veut dire que vous dégagez quelque chose, que vous avez un charisme.
Maxi Lopez lui a confié sa femme aussi.
Que vous avez un charisme quand même incroyable. Je connais peu de gens qui sont capitaines à 22 ans de clubs aussi importants, historiques que l'Internazionale. Donc faut voir ça aussi. Après, parfois on échoue dans un club et on se révèle ailleurs. Robben par exemple, il était pas bon du tout au Real Madrid et c'est l'homme du Bayern. Robben, il restera l'homme d'une décennie. Donc ça peut très bien ne pas avoir matché avec l'Inter et que
ça a matché avec l'Inter. Le problème, c'est
ça finit mal quand même.
Oui, mais ça finit mal parce qu'il y a eu ces problèmes extrasportifs. Là il est obligé de partir. Pourquoi? Parce qu'il est même pas sur les deux premiers matchs du Calcio. C'est-à-dire qu'on l'a mis de côté. À un moment il a bien fallu qu'il fasse un choix. Est-ce qu'il avait vraiment envie d'aller au PSG au départ? C'est finalement, c'était pas le choix.
C'était
numéro
plutôt la Juve. Hein,
voilà. Bon, finalement, quand vous avez une possibilité d'aller au Paris Saint-Germain, le salaire aidant, la capacité du club à aller loin quand même en Ligue des Champions, même si les dernières années ça n'a pas été le cas. Non, mais la capacité sur le papier, quand vous voyez les joueurs qu'il y a, et vous êtes un joueur comme Icardi. Non, mais quand vous êtes Icardi, vous voyez l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est plus fort que celui de l'Inter aujourd'hui. Donc bon, il y a toujours possibilité d'aller encore plus loin. Donc il a franchi le pas. Maintenant, effectivement, ce sera quand même une gestion peut-être de sa femme. Alors on verra. Je dis pas qu'il y aura un souci avec sa femme, loin de là. Mais en tout cas, elle n'hésite pas à expliquer ce que ressent son mari parfois quand ça va mal.
Et à livrer les secrets de vestiaire.
Exactement. Alors imaginons une situation un peu délicate, hein, Icardi étant mis sur le côté, et lui de toute façon il n'est que prêté, hein, donc au bout d'un an il peut toujours se barrer, on n'en parle plus. Imaginons cette situation-là, et on ne sait pas ce qui peut se passer. La femme pétant les plombs un jour dans une émission de radio, expliquant Neymar ne lui donne jamais une balle.
C'est pas tant parce que c'est une femme que parce que c'est son agent, il faut le préciser quand même, merde, hein.
Non, là on parlait pas c'est son agent, c'est pas parce que c'est son agent, parce que être son agent c'est secondaire, c'est parce que elle a des tribunes dans les médias. Mm-hmm. Parce que si vous avez pas de tribune,
Copine avec Anna Bio, la femme de Leonardo. Mm-hmm. Donc est-ce qu'elle fera ça à son ami? Est-ce qu'elle ira comme elle l'a fait? Parce que l'exemple que tu donnes, c'est un exemple qui a existé. Mmh. Elle a dit, dans le vestiaire de l'Inter, ça se passe mal. Donc forcément, les gens se disent, ah bon, bah alors elle traduit la pensée de Mauro. Donc, est-ce qu'elle osera faire ça, en sachant qu'elle mettra en porte-à-faux Leonardo et Anna Bio,
derrière
le couple Leonardo? Pardon?
Là, c'était pas pour pointer une femme en tant que telle. Là, c'est parce qu'elle est proche de lui.
Oui.
Ça aurait été son frère, j'aurais dit
la même chose. Est-ce que l'amitié n'est pas une limite à ça?
C'est sûr que Leonardo a pris des garanties pour ça. Ça, c'est absolument certain que Leonardo, c'est quelqu'un de méticuleux. S'il le fait venir, c'est qu'il a des garanties qu'elle pètera pas les plombs dans les journaux ou dans sa chronique à la télé.
Par définition,
ou sur les réseaux, sociaux.
C'est peut-être une clause dans son contrat. C'est sûrement qu'elle est
sûre que Leonardo a pris des précautions. Il aime pas trop. Ce qu'il veut, c'est restaurer l'esprit club. Donc je sais pas si ça va fonctionner avec le joueur, mais à mon avis il y aura pas de problème avec son épouse et agente. Après c'est vraiment un gros coup de Leonardo, parce que à l'image de ce qu'on fait ici, qui est tout à fait légitime, il a retourné en une fraction de seconde le mercato parisien. C'est-à-dire, on parlait tous du départ de Neymar, et là on parle de l'arrivée d'un nouveau joueur. Neymar reste, donc il a réussi ce tour de force de transformer ce qui s'annonçait un fiasco retentissant en un mercato qui paraît beaucoup plus cohérent quasiment dans toutes les lignes, sauf les latéraux. Donc franchement, bravo Leonardo sur ce coup-là, parce que lui, c'est quelqu'un qui veut restaurer l'image. Là, pour le moment, il est réussi.
Alors, je saisis la balle au bon. Est-ce que il y a unanimité sur le boulot de Leonardo autour de cette table, la qualité de ce recrutement du PSG?
Tout par rapport à ce qu'on a vécu. Je laisse la parole, mais on a connu Antero Henrique. Personne ne le regrettera. Ça ne parlait pas, c'était la terreur dans le vestiaire, tout était interdit. Pour nous, nous, les journalistes, impossible de travailler avec ce club. On a senti tout de suite avec l'arrivée de Leonardo que ça allait communiquer. D'ailleurs, la manière dont il communique vendredi dans le vestiaire à Metz, tout est calculé et il le fait avec une bonhomie. Il raconte des choses, il donne, il livre, voilà. Et puis après, tout ce mercato montre bien qu'il est l'homme de la situation. On a un manager qui est arrivé et qui remet ce club sur de bons rails, voilà.
Il est de bon ton effectivement de critiquer Enrique, ce que je comprends parce qu'il y a eu des erreurs de fait. Ouais. Et il faut pas dire non plus qu'Enrique ça a été un désastre absolu. Rappelons-nous que les années précédentes.
Absolu. On garde des désastres.
On garde des désastres.
Mais les récits, est-ce que c'est lui? Les Krikoviak, est-ce que c'est lui? Les grandes, alors Lo Celso évidemment, et je vais me passer lui. Et donc il y a eu quand même aussi pas mal d'erreurs qui ont été faites avant et il a dû assumer, hein.
C'est pas une erreur, il a acheté 14 non. du 22, c'est pas une erreur.
Non mais
Hervé, l'ambiance autour du club
non mais à l'époque on a dit qu'il pouvait pas ça, hein.
L'ambiance autour du club était pas bonne. Là, il y a un climat avec l'arrivée de Leonardo.
J'adore Leonardo,
mais l'honnêteté nous conduit à dire qu'il y a trois axes dans ce mercato. Il y a l'héritage d'Enrique, Sarabia et Herrera, ça c'est Enrique. Il y a la patte Tourelle, Gay et Diallo, ça ce sont des joueurs que Tourelle a demandé. Et puis il y a la patte Leonardo. Et là c'est Keylor Navas, un gardien qui a gagné 3 Ligues des Champions, et Mauro Icardi, une star du football mondial, même s'il n'est évidemment pas, il joue pas les premiers plans, il joue pas à la place des 10 premiers au Ballon d'Or, même des 30 premiers.
C'est pas encore une star du football mondial.
Bon, c'est un personnage très connu quand même.
Oui.
C'est une star.
C'est un talent.
Voilà, il y a beaucoup de stars dans le football mondial, quoi.
Il y a une centaine
de stars, quoi.
Bah, il est comme Firmino, il est peut-être moins bon, mais il est aussi connu que Firmino, je pense. Non ? Firmino, il a fait 2 finales de suite de Ligue des Champions, donc.
Je pense pas que Klopp échangerait.
Vous voulez dire qu'il ira par aller danser sur TF1 le vendredi soir ?
C'est possible. Bon, en tout cas, on est donc, d'accord.
Voilà. Et ce qu'il y a, la patte Leonardo, c'est quand même deux joueurs extrêmement spectaculaires, des deux clubs comme le Real Madrid et l'Inter. Mm-hmm. J'adore Abdou Diallo, mais ça vient de Dortmund, Gay, ça vient d'Everton. C'est pas du tout, ce qu'on disait là, il disait vendredi à Metz, ça sera pas une saison bling-bling. Bon, il n'y avait pas encore Keylor Navas et Mauro Icardi. Maintenant, il ne pourrait plus nous dire ça.
Icardi,
parce qu'en deux joueurs, il a renversé le truc.
N'oublions pas quand même qu'Icardi, c'est aussi l'Inter qui a cherché une porte de sortie à Icardi.
Faut pas oublier ça.
D'être
débarrassé de.
C'est
du
pas
joueur.
D'un seul coup, Leonardo, il y a 2 semaines, qui a dit tiens, je sens qu'Icardi est en difficulté, on va pouvoir
se faire. Il est venu à Paris. Il n'y a pas que Paris sur Terre. Et c'est à Paris qu'il est venu.
Oui, mais qui l'en voulait?
Personne, mais il y avait Barcelone était intéressé, la Juve a regardé, il y a quand même les clubs se penchent sur le cas Icardi quand même.
Barcelone, tu penses vraiment est intéressé?
Gilles, oui. Ils sont des blessés.
Il faut pas oublier que Leonardo, il a connu le PSG comme joueur, il a connu le PSG à la tête du club une première fois, et une de ses grandes problématiques, ça a été de toujours se demander pourquoi le club n'est pas aimé, comment faire pour que le club soit aimé à travers les médias, la France. C'est sa grande question à Leonardo depuis toujours. Et là, il a tenté d'y répondre, c'est-à-dire que il a défendu l'institution club. Il s'est dit ce club a été souvent bradé, donc il est pas aimé parce qu'il a fait n'importe quoi. Effectivement, le mot bling bling pour lui, ça le révulse. C'est l'anti-football. Et donc, il s'est dit comment rendre ce club aimable au sens premier du terme, comment les gens peuvent s'identifier, en bradant pas Neymar, même si c'est compliqué, en tentant des choses, en faisant un coup avec les gardiens de but, il essaye des choses. Et là où il a déjà gagné, c'est que ce mercato porte son empreinte. Il vient de revenir, et c'est déjà son mercato quasiment. Alors oui, on enlève quelques bribes dont parlait Dominique, mais c'est son mercato. Donc ça, c'est fort déjà. Parce qu'on a l'impression que l'image de club s'est restaurée en quelques semaines. C'était pas gagné.
Alors, on va clore le feuilleton Neymar, parce qu'on en a tellement parlé depuis des semaines et des semaines.
Et c'est pas
fini.
Il
faut bien y mettre un point final.
Oh non. Ça recommence l'année prochaine.
Comment ?
Ça recommence l'année prochaine.
Oui, hein. Et peut-être cet hiver.
C'est une saison. C'était la saison 1.
C'est ça. On va réouvrir la fenêtre. Alors, Neymar, 48 heures avant la clôture du marché des transferts, fait savoir qu'il renonce à ça. J'ai plusieurs questions. Le PSG voulait-il vraiment vendre Neymar ?
Je vous répondrai, Barcelone voulait-il vraiment l'acheter ?
C'est une autre question.
C'est un immense jeu de dupes et un coup de bluff mondial. Mais après, si 250 millions arrivent sur la table, est-ce qu'il aurait gardé le Paris Saint-Germain ? Je suis pas sûr quand même.
La question quand même qui me pose problème, c'est l'histoire d'Embélé. Si Dembélé avait accepté de venir au Paris Saint-Germain, est-ce que Neymar sera encore au Paris Saint-Germain aujourd'hui ? Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être eu du bluff, c'est possible, parce que ça a des négociations à haut niveau et en haute altitude, et surtout avec la volonté de Messi de retrouver Neymar. Donc, il fallait qu'à Barcelone aussi, on montre à Messi, attends, on t'écoute. Mais d'un autre côté, quand vous allez aussi loin dans les négociations, quand vous êtes prêt à donner des joueurs, c'est qu'il y a quand même un fond, c'est qu'il y avait quand même une possibilité qu'il y ait une petite porte de sortie, à mon avis. Simplement, peut-être que personne n'a fait les efforts nécessaires pour vraiment qu'elle s'ouvre complètement.
Gilles ?
Après, là où, à mon avis, l'histoire secrète, elle reste à écrire, c'est que si jamais Neymar apprend, parce que là, Neymar, il est comme un fou, il a beau dire « on pacifie tout, je me remets dans le match, je vais manger avec mes amis, etc. », pour lui, c'est un échec monumental. Et si jamais, donc il saura tout. S'il apprend que le PSG, si ça vient de Barcelone, il ira ailleurs l'année prochaine. Mais si c'est le PSG, et si Neymar l'apprend, qui a freiné la vente, qui a un peu fait semblant de, etc., qui a un peu manipulé, là, pour le coup, ce que je dis sur Leonardo, ça va se retourner contre Paris. Et la virulence de Neymar, elle va être d'autant plus forte. Et il risque de pourrir la saison. Parce que s'il apprend quelque part que le PSG, comme le sous-entendait Dominique, mais à l'inverse, a retardé la vente par des manœuvres dilatoires, etc., là, ça va pas passer du tout, du tout, du tout. Ça, c'est ma crainte. Ça, c'est ma crainte, c'est que Neymar...
Des manœuvres économiques, Gilles. C'est-à-dire que Paris a fixé un prix prohibitif. Paris a demandé entre 200 et 300 millions d'euros. Quel club, aujourd'hui, peut se permettre de dépenser cet argent ?
T'avais le Real ? Le Real de Madrid a fini l'a fini l'année dernière avec un seul positif de plus de 150 millions.
Ouais,
alors donc eux, ils avaient la possibilité d'avoir l'argent.
Ils voulaient Pogba cet été et ils veulent Mbappé l'année prochaine. Est-ce qu'ils auraient voulu au cinéma ?
Je pense qu'ils n'auront pas Mbappé.
Mais ah, si. L'année prochaine ?
Oui.
Ah, bah si.
Donc il n'y aura plus Neymar et Mbappé au PSG. Bon, on en reparlera l'année prochaine.
Neymar, je ne sais pas, mais Mbappé, ils vont mettre 300 minimum et ils l'auront, oui.
Ouais. Ça, c'est pas terminé l'histoire.
Non, j'ai du mal à y croire.
Est-ce que cette information, entre guillemets, selon laquelle Neymar aurait proposé de sortir 20 millions d'euros de sa poche pour aller à Barcelone, elle est crédible?
Elle vient de Pinizahoui, qui est l'agent...
C'est tout à fait extraordinaire.
Qui était à la table de négociation le 27 août, mandaté par le Neymar Senior, le père de Neymar. Donc c'est lui qui a abreuvé les journalistes de sport et de français de ce genre d'informations.
Le journal catalan en sport,
oui. Oui, donc c'est pas vérifiable, parce que c'est la parole de Pinizahoui. C'est pas vérifiable. Est-ce que c'est légal? Je suis pas sûr qu'un joueur puisse payer pour se transférer lui-même.
Le PSG a eu peur de ça.
Le PSG a s'est dit, là, il y a embrouille. Ouais. Si jamais c'est vrai.
Ouais.
S'il est prêt à mettre 20 pour lui, mais pas 30. Parce que bon, le PSG, plus ça augmentait, plus il était content.
Ah, on sait pas comment c'était dans les négociations. On était peut-être à 150. Le PSG voulait 170. Il a dit, je mets les 20. Mmh. Ce qui est énorme, c'est que c'est son salaire. Donc, finalement, ce qu'il propose pour acheter son transfert, de prendre l'argent que le PSG lui donne.
Non, mais ce qui veut dire, c'est magnifique, à quel point il a une forme, alors je dis pas de détestation, mais on n'en est pas loin du club. Lié à sa situation et à tous les résultats qu'il a eu, ça, on peut en parler, les blessures, mais tout ce qu'il a vécu dans l'extra-football.
Il a l'impression un peu comme un Gilles. Hervé, je dirais de la France. Il y a une détestation, pas du PSG, de la France.
Peut-être de la France, c'est plus large.
De la France. Vous savez qu'il a une petite histoire de viol pour laquelle il a été blanchi, parce que ça ne lui plaît pas.
Ça n'a rien à voir avec, ça s'est passé en France, mais c'était une Brésilienne qui l'accusait.
D'accord, mais ça s'est passé à Paris. Ouais. Donc, pour lui, il y a un mauvais karma. Il s'est blessé où, deux fois?
Non, mais c'est surtout ça, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il se retrouve face à quelqu'un qui a beaucoup de croyances, comme beaucoup de footballeurs. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Et il a la sensation qu'en étant au Paris Saint-Germain, il lui arrive des malheurs. Et ça, vous pouvez pas lui enlever de la tête. Ça, c'est comme ça. Vous pouvez tenter de rationaliser un discours, un raisonnement, ça ne fonctionne pas. Pour lui, Paris Saint-Germain, ce sont ses blessures, ses problèmes extra-football, sa Coupe du Monde ratée, etc., etc., etc. Et il revient avec ça en tête quand même, avec la sensation que porter ce maillot, ça lui porte la scoumoune. Vous êtes prêt même à mettre 20 millions d'euros pour plus le porter, justement. Gilles?
Après, d'après les infos que j'ai, il y a eu vraiment cette proposition. C'est ce qu'on appelle, nous, quand on a besoin de 20 centimes, on dit je vais faire la soudure. Et c'est ça.
C'est 20 millions.
C'est 20 centimes, lui, c'est 20 millions.
Absolument. Il a dit je vais faire la soudure. Mais seulement, le PSG a eu peur d'un montage illégal. Ils se sont quand même renseignés. C'est pas du tout comme en Espagne, un joueur peut racheter une clause, etc. En fait, c'est le club qui paye. En France, ils ont eu peur d'une manœuvre frauduleuse. Et à Doha, rappelons que le Qatar, qui est déjà contesté pour sa présence, pour son rachat du PSG, qui est parfois dans des nœuds politiques et économiques complexes, ne voulait pas surajouter ça. Ils se sont dit, là, on risque d'avoir un problème à terme. Donc non, ils ont coupé tout de suite court à ça.
Je sais pas ce que ça vaut, mais le journal AS dit que Barcelone et Neymar vont bientôt se retrouver au tribunal pour des problèmes qu'ils ont du passé. AS est un journal très marqué Madrid, donc peut-être que c'est une manipulation. Mais on sait qu'il a dans son passé, Neymar et son clan, eu un comportement avec le fisc espagnol ou avec Barcelone qui est parfois limite ou border, comme on dit. Donc peut-être que le PSG s'est dit, nous on rentre pas dans ce genre de choses qui nous conduisent devant les tribunaux et les dans les pages faits divers. Puis il y a les Football Leagues en plus en 2019, hein, en 2018, en 2017.
Enfin, quand il donnera la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, tout le monde sourira en disant, oh, et heureusement qu'on l'a gardé.
Bien sûr, ça serait une belle histoire.
Ah, en tout cas, si cette histoire de 20 millions est vraie, effectivement, ça révèle un état d'esprit du joueur.
Ah oui. Prêt à tout.
Et ce sera un débat dans les semaines qui viennent, puisque on devra reparler aussi de ces fameuses retrouvailles avec les supporters qui l'ont insulté. Hein,
vous savez, bon, quand la saison se termine, il y a parfois 2-3 épisodes comme ça qui arrivent pour allécher, préparer la saison 2. Donc il va y avoir des rebondissements, c'est sûr.
Bon, on clôt provisoirement le feuilleton Neymar, qui n'est pas tout à fait terminé. Et à propos du mercato et de tous ces changements dans les effectifs, alors que les championnats ont déjà commencé, eh bien, écoutez ce que dit l'entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff.
C'est quand même un gros problème parce que ça fait un mois de compétition pratiquement avant. Ça déstabilise les clubs, donc bon, les Anglais l'ont compris et c'est une évolution. Après, ce qu'il faut, c'est harmoniser les championnats sur le plan international aussi, parce que on voit bien le marché anglais étant terminé, bon, bah, ça bloque un peu les choses, donc il faudrait une harmonie. Mais évidemment, le mercato qui se termine avant la première journée de championnat, c'est respecter une éthique sportive. Et je pense qu'il faut tendre vers là. Avant, on faisait les préparations avec des joueurs, maintenant on fait des préparations, on n'a pas l'équipe.
Voilà, Gourcuff qui râle contre ces mercato qui se prolongent bien après le coup d'envoi de la saison. Il a fait allusion à l'Angleterre. Vous le savez, si vous avez suivi ces affaires de près, eh bien en Angleterre, les recrutements sont terminés depuis le 8 août. Donc à la différence des autres grands pays d'Europe, du football européen. Mais aujourd'hui, on apprend qu'environ la moitié des clubs de Première Ligue, eh bien, souhaitent revenir en arrière. Il y aura une réunion la semaine prochaine avec la Première Ligue. Il y a Pochettino qui est en pointe, notamment l'entraîneur de Tottenham, qui est l'un des plus critiques et qui dit nos adversaires de Ligue des Champions peuvent se renforcer jusqu'à 2 semaines avant le coup d'envoi de la compétition, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on entendait un peu un appel à uniformiser, enfin à suivre l'exemple de l'Angleterre, et finalement on se rend compte que l'Angleterre va peut-être faire machine arrière. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que dit Pochettino est absurde. C'est un bon entraîneur, mais là il a complètement tort. L'exemple venait de l'Angleterre parce que c'est l'Angleterre qui donne l'exemple, c'est l'Angleterre qui régule le marché, c'est l'Angleterre qui a dépensé 1,3 milliard d'euros, c'est l'Angleterre qui donne le ton du football européen. Et ils avaient donné le ton dans un bon sens. Tout le monde allait s'aligner. Et là il remet en cause pourquoi ? Parce que lui sans doute a raté son mercato. Mais il faut pas avoir une courte vue. L'Angleterre a des responsabilités, là. Elle en a dans d'autres domaines, mais là, elle en a vraiment. Donc, il faut suivre cet exemple. On arrête avant le début des compétitions. Sinon, c'est de l'inéquité. Et je suis totalement d'accord avec Gourcuff.
Je pense qu'il sera pas en désaccord avec toi si on lui dit que tous les pays, exactement, finalement, oui, commencent avant la première journée.
Mais il commence à renoncer là au bout de quelques semaines.
Oui, mais parce qu'il voit bien que c'est plus facile de convaincre l'Angleterre de revenir en arrière que de convaincre l'Espagne, les France, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, tu vois tout ce que je veux dire. C'est beaucoup plus compliqué de convaincre 50 pays de revenir en arrière qu'un seul. Donc voilà, il choisit une mauvaise solution, mais évidemment que tu as raison et qu'il a raison.
Ce qu'il veut, c'est que ce soit partout pareil.
Ben voilà, et évidemment qu'il faut s'aligner sur l'Angleterre, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus éthique. Évidemment qu'il faudrait faire ça.
Pochettino a été ennuyé par le cas Eriksen
qui a été Dybala a failli s'engager le 8 août, le jour de la fermeture du parce que en plus c'est baroque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter à partir du 8 août, mais on peut voir des joueurs partir.
On peut toujours vendre.
Donc, oui. En plus, ils se font doublement avoir, si je puis me permettre. Mmh. Pogba aurait pu partir, alors que Manchester pouvait plus recruter personne.
Ouais, c'est ça.
Ça fait beaucoup quand même pour les clubs.
Non, mais Hervé, où est la vérité ?
C'est relativement simple. Vous allez m'écouter, vous allez tout comprendre. Mais évidemment qu'il faut que tous les clubs, tous les championnats aient une deadline avant le début des championnats. Mais moi, je serais pour quasiment la fin du mois de juillet. Parce que le problème, c'est qu'un championnat qui commence le 8, un autre le 15, un autre le 22. Oui. Donc ça fait déjà 2 semaines d'hier. Donc il faut trouver une date qui permette sur les championnats majeurs, on va dire, allez, 6, 7, 8 championnats. Parce qu'évidemment qu'après, l'harmonisation est plus compliquée, peut-être avec certains pays. Et arriver à une date butoir et dire, il faut qu'une équipe commence sa compétition et la finisse avec la même. Finisse au mois de décembre. Parce qu'on sait que maintenant, il y a le mercato d'hiver et vous n'allez pas l'enlever.
Et le joker.
Oui, et en plus, alors l'histoire Rongier étant encore autre chose, c'est-à-dire que vous avez capacité. Alors, vous n'avez pas pu le faire le soir de la deadline sur le mercato, mais en revanche, vous allez le faire comme joker 4 jours plus tard. Donc, c'est absolument.
Alors, Rongier, je résume vite fait. Valentin Rongier, donc le milieu du Football Club de Nantes, il était à Marseille éventuellement pour signer juste avant la fermeture du mercato. Ça ne s'est pas fait, mais aujourd'hui, ce mardi, on reprend les discussions et il pourrait être recruté comme joker.
Ça, c'est une dérogation française.
Voilà, c'est un règlement. Franco-français.
Donc vous rajoutez le mercato d'hiver, donc vous pouvez changer d'équipe en France grâce à un joker après le 2 septembre, grâce au mercato d'hiver, grâce au mercato normal qui finit le 2 septembre alors que l'Angleterre a déjà fini. Ça fait déjà trop de transformations. Donc vous avez raison.
Et l'histoire du joker sur ce cas précis par exemple est scandaleuse. Parce que là c'est vraiment un problème de négociation qui n'a pas abouti. Mais en quoi vous méritez de l'avoir 4 jours plus tard? Vous aviez qu'à faire le boulot avant, il y avait une date limite. Alors Ferry l'année dernière par exemple à Montpellier était un cas à part parce qu'effectivement il est parti beaucoup plus tardivement, mais là sur ce
il y a trop de dérogations.
Oui, trop de dérogations.
Gilles. Après je suis souvent maximaliste, mais là Hervé me dépasse, c'est-à-dire quand il dit on devrait arrêter fin juillet.
Oh, mais quand je dis fin juillet, pourquoi on n'arrête
pas, pourquoi on n'arrête pas en juillet, pourquoi ça a été prolongé quand même? C'est parce que quand il y a des grandes compétitions internationales, Euro ou Coupe du monde pour certains joueurs, les joueurs sanctuarisent cette période
ou Cannes.
Ou Cannes, évidemment. Les joueurs sanctuarisent cette période. Vous imaginez que des joueurs en pleine compétition ne parlent que de transfert, les sélectionneurs deviendraient fous, le grand public n'y comprendrait rien. Donc globalement, ça se négocie,
on adapte.
Et comme c'est en juillet, souvent les compétitions, faut quand même laisser quelques jours.
Quand il n'y a pas de grand tournoi, vous fermez le 31 juillet. Quand il y a un grand tournoi, vous fermez le 15 août.
C'est dur, une tâche mobile, c'est dur aussi.
Même le 7 août, même si 31 juillet, c'était une image.
Tu sais Gilles, l'année dernière, la France a été championne du monde en Russie et on savait pas qu'elle allait l'être et on parlait que du transfert de Griezmann à Barcelone et il était venu en conférence de presse, on lui avait posé la question, les journalistes espagnols étaient venus avec Google Translation pour lui faire poser la question en français parce qu'il fallait poser des questions qu'en français aux joueurs même s'ils évoluent en Espagne. Donc les joueurs ils parlent de façon transfert tout le temps quoi qu'il arrive, même quand ils vont être champions du monde 2 semaines après.
C'est marrant d'ailleurs parce que je lisais ça aujourd'hui, les bleus champions du monde dans la foule de la Coupe du monde, il y a eu 2 champions du monde transférés. Cette année, il y a pas de compétition. Il y a 12 membres de l'équipe de France qui ont changé de club pendant ce marché d'été.
Philosophiquement, donc, moi je suis pour ça. Maintenant, si vous demandez aux joueurs, je pense qu'ils sont pour une ouverture plus large du marché des transferts. Pour eux, jusqu'à fin août, c'est beaucoup mieux.
C'est pas eux, c'est leurs agents.
Et eux aussi. Parce que quand vous sentez que vous êtes en difficulté dans un club, dès le début du championnat, ça se passe mal. Ce qui est une erreur majeure, hein, parce qu'il y a des joueurs qui sont en difficulté pendant 1 ou 2 mois, puis qui reprennent l'avantage après. Mais bon, il n'empêche que puisque tous les gens sont un peu épidermiques dans ce milieu-là, eh bien, vous avez encore la possibilité de changer. Et pour les joueurs, je pense que les joueurs, ils sont plutôt contre
cette cadeau du football mondial aux agents, quand même. C'est mercato. C'est quand même, c'est la fenêtre pour la sauvagerie d'ultralibéralisme.
Et aux joueurs. C'est une dérégulation qui continue d'entretenir cette bulle presque spéculative, mais qui risque d'éclater un jour, de lasser les gens. C'est pour ça que dans la foulée de ce que vous disiez, il faudrait aussi éliminer, à mon avis, le marché hivernal, parce que c'est totalement artificiel. Monaco s'était sauvé l'année dernière en achetant je sais pas combien de joueurs au marché hivernal. Mais si vous êtes en difficulté dans une compétition, ben vous assumez. Autour de France, on vous redonne pas 10 minutes parce que vous êtes sympa ou je sais pas quoi, alors que vous avez eu une défaillance dans un col. Ça n'existe pas. Donc il faut une continuité. On commence une compétition, on la finit avec le même effectif.
J'adore ton ambition, mais à un moment, on ne peut pas se battre contre des moulins à vent. C'est-à-dire qu'on sait très bien que de toute façon, on ne pourra rien faire contre ça. Tu dis, c'est un football qui est gangréné, en gros.
Non, c'est vite,
le mercato n'a pas toujours existé, le mercato d'hiver.
Mais y a-t-il besoin de se battre? Parce que quand vous me dites, bon, aujourd'hui, il y a plein d'argent, ça dérégule, les gens vont finir par en avoir marre. Mais on n'a jamais vu un football autant aimé qu'aujourd'hui. Les gens adorent ça. Ils adorent les histoires Neymar. Vous allez faire des émissions de télé dessus. Il y a des chiffres absolument incroyables. Pourquoi? Parce que même si c'est d'une certaine manière, il y a un côté répulsif, mais il y a un côté aussi addictif. Ils adorent le foot. Ils adorent les grands matchs, les grands joueurs, l'argent qui est déversé à flot.
Mais ceux qui le détestent, Hervé, le foot, il le déteste encore plus après un épisode comme ça. Hein.
Oui, mais enfin, on n'a jamais vu autant de monde dans les stades. On n'a jamais vu autant de monde qui regarde la télé pour les matchs de football. Ça prouve bien que cet argent qui a été insufflé dans le football, il dégoûte pas, il ne répugne pas.
Attention, hein, une des raisons pour lesquelles les clubs anglais sont en pleine interrogation globale, changer la date, etc., c'est parce que leur taux de rentabilité commence à baisser. Et ça, même s'il y a plein d'argent qui est injecté, les patrons des clubs commencent à se dire « Attention, avec ces transferts à la hausse, ces salaires à la hausse, jusqu'où va-t-on aller ? Les revenus ne sont pas peut-être extensibles. »
Donc
il y a un questionnement.
En Angleterre, le bilan du mercato en Angleterre, c'est des dépenses stabilisées. Hein. Mais alors, un niveau tellement élevé qu'on est à environ 1,5 milliard d'euros dépensés par les clubs anglais.
Juste une précision de tout ce qu'a dit Gilles, pour moi, je le partage, mais juste, le plus gros transfert, à ma connaissance de cet été, c'est celui de Griezmann de l'Atlético à Barcelone, 120 millions d'euros. Ensuite, c'est Joao Félix,
je crois. C'est à peu près la même somme. Hein,
non, 126 millions pour Joao Félix, j'ai vu.
Ah, enfin, 126.
Kiff. Bon, c'est 6 millions
Neymar. Je m'attendais, alors c'est des sommes évidemment astronomiques, hein, mais je m'attendais à ce qu'on augmente quand même, qu'on passe les 150. Hazard a été transféré pour 100 de la Chelsea au Real Madrid. Je pensais quand même que vu les prix, on allait encore franchir.
Donc,
il y a
une forme d'autorégulation.
Bah alors, c'est pas. Alors, 126, 120, ça reste des chiffres quand même dingues. Hein, mais il y a peu de clubs qui peuvent se payer ça. Lyon ne peut pas payer 126 millions d'euros.
De fait, quand l'Angleterre.
Pas de joueurs chers,
quand ça a fermé en Angleterre, ça s'est ralenti dans la foulée. C'est le régulateur. Et puis, il y a une manne des clubs anglais qui disparaît d'un coup.
Évidemment. On a parlé de l'Angleterre, on va parler de l'Espagne tout de suite.
Joao Félix, Diego Costa, no hay fuera de juego. Acompaña a Joao, sigue Diego, mano a mano de Diego. Se detiene Diego, mete el centro. Y Joao Félix se queira.
Gareth Bale, va-t-il frapper? Il le peut, Bale. Égalisation, doublé de Gareth Bale.
Antoine Griezmann, effectivement, comme le disait Dominique, recruté cher, très cher, par le FC Barcelone, 120 millions d'euros. En Espagne, d'ailleurs, pour le bilan du Mercato, on est passé de 890 millions d'euros à 1,3 milliard. Donc ça fait une belle augmentation, plus 46%.
C'est ce que disait Gilles.
Ouais, c'est quand même énorme. Pour quel résultat? On va faire un petit round-up, entre guillemets, pour utiliser un anglicisme, de ces trois premières journées. On voit quand même que la hiérarchie, là, elle est quand même bien bousculée, avec un Atlético de Madrid en tête, 3 victoires en 3 matchs. Et pour trouver le Real, il faut aller jusqu'à la 5e place avec 5 points. Et le Barça est 8e avec 4 points. Le Barça, ce début de saison, qu'en pensez-vous? De partout à Osasuna, là, c'est... Alors évidemment, il y a pas mal de blessés, vous allez me dire, mais pour l'instant...
J'aurais remarqué qu'on n'a pas fait venir le réfé.
Ça ne tourne pas.
Déjà, quand vous avez une équipe sans Messi, c'est plus pareil. C'est-à-dire que là, vous êtes effectivement avec une défaite, un nul, une victoire, mais vous en seriez peut-être avec 3 victoires si Messi avait été là. Donc ça change radicalement tout. Et c'est vrai qu'ils sortent d'une saison quand même, même s'ils ont été bons en championnat, mais on sentait sur la fin que ça commençait un peu à piocher, et là, pour l'instant, ils n'ont pas retrouvé leur rythme de croisière. Mais vaut mieux pas partir trop vite, à mon avis, et puis aller un petit peu plus loin, notamment en Ligue des Champions, parce que ça va être quand même, j'imagine, l'objectif pour le club cette année, et faire l'anti-Paris Saint-Germain, incroyable pendant 6 mois, et puis après, explosant sur la fin.
C'est le pire...
Des deux grands qui vont mal, pour moi, c'est celui qui m'inquiète le moins, Barcelone.
Oui.
Parce qu'ils ont Messi et Suarez sur le flanc, Dembélé est aussi blessé, parfois il lui arrive de rendre des services, et Griezmann vient d'arriver, on peut pas tout lui demander, il les a sauvés quand même à domicile avec un doublé il y a pas longtemps. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est Real, parce que eux, ils sont plus ou moins au complet. Alors, il manque Hazard, mais j'ai l'impression quand même que la Ligue des Champions qu'ils ont remporté 3 fois de suite de 2016 à 2018 masque les problèmes d'une équipe qui est en souffrance depuis plusieurs années.
On va en parler du Real, hein, Dominique, mais arrêtons-nous encore un petit peu sur le Barça. Est-ce que vous ne trouvez pas malgré tout qu'il y a un certain manque de consistance au milieu de terrain?
Si. Alors, d'abord un premier constat, le début de saison est rythmé à l'aune des blessures. On le voit en équipe de France, on le voit à Barcelone, les calendriers deviennent dingues, donc il y a beaucoup de blessés. Et dans ce contexte-là, je suis quand même plus inquiet que Dominique pour Barcelone. Parce que Suarez, oui, il y a une blessure, mais ça fait beaucoup de problèmes physiques. On a l'impression qu'il est moins bon, il est en déclin. Dembélé, plein de récurrences de blessures. Messi, il a une blessure, dans quel état psychologique est-il? Il va être dévasté que Neymar ne vienne pas. Les stigmates des éliminations successives en Ligue des Champions qui ont laissé des traces. Cet entraîneur...
Le Karakitic aussi.
Karakitic,
était dans la balance.
Va-t'en, s'il te plaît.
Qui a perdu sa place de titulaire. Hein.
Voilà. L'entraîneur qui, quand même, est contesté. Est-ce que c'est un grand entraîneur? On peut se poser la question quand même. Donc, ça fait beaucoup de questionnements autour de Barcelone.
Ouais, mais...
Et à mon avis, l'ombre de Neymar va planer toute la saison sur le club.
Quand ils ont pris De Jong il y a assez longtemps, on était quand même tous en train de se dire c'est quand même Barcelone qui a attiré la future pépite au milieu de terrain, future pépite du football mondial, qui joue à l'Ajax. voilà, ils ont comme un milieu donc avec Sergi Roberto, Busquets et De Jong
et Arthur,
ils ont comme du banc avec Rakitic. Ils ont Samuel Umtiti qu'on connaît bien, qui est champion du monde, n'a plus sa place de titulaire, c'est l'anglais Piqué. Donc ils ont aussi des gens comme Umtiti sur le banc. Ils ont recruté un gardien, ils ont gardé Semedo que le Paris Saint-Germain voulait dans la transaction
pour que Messi, Dominique, pour que Messi sur WhatsApp ou sur des textos dise à Neymar reviens pour qu'on regarde la Ligue des Champions, c'est quand même...
Tu les as lus ?
C'est quand même... Ah ben, il les a pas démentis, ils existent, vous le savez très bien. Et c'est que il y a une inquiétude de ça.
Est-ce qu'il n'y a pas un message caché vis-à-vis d'un joueur qui vient d'arriver, un blond champion du monde français ?
Sans doute.
Est-ce que Messi a une relation si pacifique que ça avec Antoine Griezmann ? Est-ce que le retour de Neymar n'est peut-être pas un moyen encore plus de mettre sur le côté Griezmann qu'il déteste, je ne sais pour quelle raison. Il se trouve que Messi déteste Griezmann.
Donc la saison sera compliquée.
Parce qu'il est champion du monde et pas lui.
Alors c'est tout. Ouais, ça fait beaucoup de joueurs à détester.
Enfin, ils auront l'occasion de se côtoyer et peut-être de s'apprécier. Vous savez, ça ne reste que de l'humain.
Première impression également sur le Real Madrid. De partout, on l'a dit, le Real n'est pas encore, trois journées, quatre points de retard sur l'Atlético. Mais l'impression quand même que ça ne tourne pas rond et qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Hein. C'est le record de dépenses pour le Real dans un marché d'été. 300 millions d'euros, avec notamment Hazard, mais aussi Ferland Mendy, Jovic, et puis finalement la remarque que l'équipe qu'on voit évoluer, ça reste à peu près la même que les saisons passées.
Et avec un joueur dont Zidane ne voulait plus, qui flambe en ce début de saison, Gareth Bale.
Oui, c'est à l'image de Jovic, il était déjà sur le marché, ils l'ont acheté en juillet, et là il a été proposé au Paris Saint-Germain il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine. Donc, c'est rare quand même un joueur que vous prenez l'été, que vous voulez revendre ou prêter tout de suite. Non, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et Zidane avait quand même comment cibler un secteur de jeu où il fallait changer les choses. C'était le milieu de terrain et il n'a pas eu gain de cause. Donc je pense que souvent...
Il n'a pas eu gain de cause. Il a un recrutement énorme déjà.
Non, mais il ne voulait pas.
Mais un entraîneur, il n'a pas tous les joueurs qu'il veut.
Le seul qu'il voulait, c'était Pogba. Il ne l'a pas eu.
Ah non, il voulait Hazard.
Ah non, mais le vrai joueur...
Il voulait Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'est vraiment lui. 50 millions d'euros.
Mais c'est une doublure à Marcelo. Doubleur à Marcelo.
50 millions.
Oui, 50 plus que ça, 52,5, je crois.
C'est totalement hallucinant. Ah
bah oui, mais... Là, on a l'impression, pour le coup, que tout le recrutement était orienté à l'aune de la fabrication d'un 11 type avec un rôle essentiel pour Pogba. Et Zidane a eu effectivement tout ce qu'il voulait, sauf le joueur essentiel. Donc c'est très compliqué. Et là, je pense que ça montre que les pleins pouvoirs qu'on lui avait accordés, moi je prends ça, je vais vous dire le mot, pour une forfaiture présidentielle, les pleins pouvoirs qu'on lui avait accordés ont été reniés à peine en quelques mois. Il revient, on lui dit tu peux tout changer, il a un joueur à acheter, on lui refuse.
Donc
qu'on ne vienne pas dire que Zidane a échoué si un jour, par malheur, il échoue. Ce sera la forfaiture présidentielle.
Mais Gilles a oublié juste une petite chose dans la forfaiture présidentielle, c'est que de l'autre côté, il y a un club qui s'appelle Manchester United et qui n'a pas l'intention du tout de vendre Pogba à partir du moment où ils n'ont pas acheté un remplaçant. Donc c'était terminé et Manchester est un club qui est capable de résister. Donc c'était terminé.
De droit d'image qu'il n'a pas voulu céder.
Il y a plein de choses comme ça.
Mais après, le constat de Zidane n'est pas bête. Il pense que Modric, à 34 ans, n'a plus l'aura qu'il a eu jusqu'encore à la Coupe du Monde en Russie. Et donc, Kroos, lui aussi, décline un peu. Casemiro, c'est un autre registre, c'est une sentinelle. Donc, il se dit qu'il a besoin d'un relayeur, d'un playmaker, un garçon qui fait du jeu, qui va servir Benzema, Hazard, Vinicius, Bale, ceux qui vont jouer devant. Et il avait identifié Pogba comme ce joueur capable d'être le tampon entre la défense et l'attaque. C'est vrai que Modric aujourd'hui, il a peut-être plus les jambes pour faire ça.
Il nous reste une minute. L'Atlético de Madrid en tête, invaincu pour le moment, et surtout 9 points dans la besace. Ça peut durer ? Avec sa perle, Joao Félix.
Ça dure quand même depuis des années. Hein. Ils sont toujours dans les trois.
Oui, mais là, il y a eu beaucoup de renouvellement.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi en renouvelant et en enlevant des cadres. Parce que là, on parle des défenseurs, les Juanfran, Godin, plus les Griezmann. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai départ de star absolu de l'équipe. Et finalement, ils ont réussi à trouver des joueurs qui font la maille aujourd'hui. Ouais. Et Joao Félix, il sera peut-être la pépite de demain. Seule chose, on est sur trois journées de championnat, trois victoires par un but d'écart, la dernière à la 90e minute.
C'est la marque Simeone, ça. Hein. C'est la marque de Ferrari.
C'est vrai, mais ce que je veux dire
solide,
par là,
c'est solide.
Ça restera solide, moi, ça reste une équipe.
C'est un football que je n'aime pas, Christophe, mais reconnaissons que c'est un génie, Simeone. Il arrive chaque fois à trouver la bonne formule, quels que soient les joueurs.
Ouais,
mais c'est pas le football que j'aime.
d'emmener tout le monde dans son sillage. Cette semaine dans Radio Foot, on profitera de la trêve internationale pour faire les bilans un peu de ces débuts de saison, hein, comme si on vient de le faire pour l'Espagne. Demain, il y aura l'Angleterre. Ah, et pour les fans des transferts, rendez-vous le 1er janvier 2020 pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
Oh, j'espère. Sur Neymar, j'espère qu'on parlera de Neymar.
Et pour le prochain Radio Foot, on attendra moins longtemps. C'est demain, mercredi, et aux commandes, il y aura Olivier Prompt.